Octave Feuillet, Histoire d'une Parisienne. Chapitre 1. Il serait excessif de prétendre que toutes les jeunes filles à marier sont des anges. Mais il y a des anges parmi les jeunes filles à marier. Cela n'est même pas très rare. Et, chose qui paraît d'abord étrange, cela est peut-être moins rare à Paris qu'ailleurs. La raison en est simple. Dans cette puissante serre chaude parisienne, les vertus et les vices, de même que les talents, se développent avec une sorte d'outrance et atteignent leur plus haut point de perfection ou de raffinement. Nulle part au monde on ne respire de plus âcre poison, ni de plus suave parfum. Nulle part aussi la femme, quand elle est jolie, ne l'est davantage. Nulle part, quand elle est bonne, elle n'est meilleure. On sait que la marquise de La Tour-Ménil, quoiqu'elle fût à la fois des plus jolies et des meilleures, n'avait pas été particulièrement heureuse avec son mari. Ce n'était point qu'il fût un méchant homme, mais il aimait à s'amuser, et il ne s'amusait pas avec sa femme. Il l'avait en conséquence extrêmement négligée. Elle en avait beaucoup pleuré en secret, sans qu'il s'en fût aperçu ou soucié. Puis il était mort, laissant à la marquise l'impression qu'elle avait manqué sa vie. Comme c'était une âme douce et modeste, elle eut la bonté de s'en prendre à elle, à l'insuffisance de ses mérites, et, voulant épargner à sa fille une destinée semblable à la sienne, elle s'appliqua à en faire une personne éminemment distinguée, et aussi capable que peut l'être une femme de retenir l'amour dans le mariage. Ces sortes d'éducations exquises sont à Paris, comme ailleurs, la consolation de bien des veuves, dont quelquefois le mari vit encore. Mademoiselle Jeanne Bérengère de La Tour-Ménil avait heureusement reçu du ciel tous les dons qui pouvaient favoriser l'ambition que sa mère concevait pour elle. Son esprit, naturellement très ouvert et très actif, s'était merveilleusement prêté dès l'enfance à la délicate culture maternelle. Plus tard, des maîtres d'élite, soigneusement surveillés et dirigés, avaient achevé de l'initier aux notions, aux goûts et aux talents qui sont la parure intellectuelle d'une femme. Quant à l'éducation morale, elle eut pour maître unique sa mère, qui, par le seul contact et par la pureté du souffle, en fit une créature aussi saine qu'elle-même. Au mérite que nous venons d'indiquer, Mademoiselle de La Tour-Ménil avait eu l'esprit d'en ajouter un autre, dont il est impossible à la faiblesse humaine de ne pas tenir compte. Elle était extrêmement jolie. Elle avait la taille et la grâce d'une nymphe, avec une mine un peu sauvage et des rougeurs d'enfant. Sa supériorité, dont elle avait une vague conscience, l'embarrassait. Elle en avait à la fois la fierté et la pudeur. En tête-à-tête avec sa mère, elle était expansive, enthousiaste et même un peu bavarde. En public, elle se tenait immobile et muette comme une belle fleur. Mais ses yeux magnifiques parlaient pour elle. Après avoir accompli avec l'aide de Dieu cette œuvre charmante, la marquise de La Tour-Ménil n'aurait pas mieux demandé que de se reposer, et elle en aurait certainement eu le droit. Mais le repos n'est guère fait pour les mères, et la marquise ne tarda pas à devenir la proie d'une agitation fiévreuse que beaucoup de nos lectrices comprendront. Jeanne Bérengère avait atteint sa 19e année, et il fallait songer à la pourvoir d'un mari. C'est là, sans contredit, pour les mères, une heure solennelle. Qu'elles en soient fort troublées, ce n'est pas ce qui nous étonne. Ce qui nous étonne, c'est qu'elles ne le soient pas encore davantage. Mais si jamais une mère doit éprouver, en ce moment critique, de mortelles angoisses, c'est celle qui a eu, comme Madame de la Tourménil, la vertu de bien élever sa fille. C'est celle qui, en pétrissant de ses chastes mains cette jeune âme et ce jeune corps, en a si profondément raffiné, épuré et comme spiritualisé les instincts. Il faut bien qu'elle se dise, cette mère, qu'une jeune fille, ainsi faite et parfaite, est séparée de la plupart des hommes qui courent nos rues et même nos salons par un abîme intellectuel et moral aussi large que celui qui la sépare d'un nègre du Zoulouland. Il faut bien qu'elle se dise que livrer sa fille à un de ces hommes, c'est la livrer à la pire des mésalliances et dégrader indignement son propre ouvrage. Sa responsabilité en pareille matière est d'autant plus lourde que les jeunes filles, dans nos mœurs françaises, sont absolument hors d'état de prendre une part sérieuse au choix de leur mari. À bien peu d'exceptions près, elles aiment d'abord de confiance celui qu'on leur désigne pour fiancé, parce qu'elles lui prêtent toutes les qualités qu'elles lui souhaitent. C'était donc à juste titre que Madame de la Tourménil se préoccupait avec anxiété de bien marier sa fille. Mais ce qu'une honnête et spirituelle femme comme elle entendait par « bien marier sa fille », on aurait peine à le concevoir si l'on ne voyait tous les jours que l'expérience personnelle la plus douloureuse, l'amour maternel le plus vrai, l'esprit le plus délicat, et même la piété la plus haute ne suffisent pas à enseigner aux mères la différence d'un beau mariage et d'un bon mariage. On peut au reste faire l'un et l'autre en même temps, et c'est assurément ce qu'il y a de mieux. Mais il faut prendre garde qu'un beau mariage est souvent le contraire d'un bon, parce qu'il éblouit et qu'en conséquence il aveugle. Un bon mariage pour une jeune personne qui doit apporter, comme Mademoiselle de la Tourménil, 500 000 francs de dot à son mari, c'est un mariage de 3 ou 4 millions. Véritablement, il semble qu'une femme peut être heureuse à moins. Mais enfin, on avouera qu'il est difficile de refuser 4 millions quand on vous les offre. Or, en 1872, le baron de Morescan en offrit 6 ou 7 à Mademoiselle de la Tourménil par l'intermédiaire d'une amie commune, qui avait été sa maîtresse, mais qui était bonne femme. Madame de la Tourménil répondit avec la dignité convenable qu'elle était flattée de cette proposition, et qu'elle demandait néanmoins quelques jours pour y réfléchir et pour s'informer. Mais, aussitôt l'ambassadrice hors de son salon, elle passa chez sa fille en courant, l'attira follement sur son cœur et fondit en larmes. « Un mari, alors ? » dit Jeanne, en fixant sur sa mère ses grands yeux de feu. La mère fit signe que oui. « Quel est ce monsieur ? » reprit Jeanne. « Monsieur de Morescan ! Ah, vois-tu, ma fillette, c'est trop beau !» Habituée à regarder sa mère comme infaillible et la voyant si heureuse, Mademoiselle Jeanne n'hésita pas à l'être aussi. Et les deux pauvres chères créatures échangèrent longtemps leurs baisers et leurs pleurs. Pendant les 8 jours qui suivirent, et que Madame de la Tourménil crut sincèrement consacrée à une enquête sérieuse sur la personne de Monsieur de Morescan, elle n'eut guère en réalité d'autre préoccupation que de fermer ses yeux et ses oreilles pour ne pas être dérangée dans son rêve. Au surplus, elle reçut de sa famille et de ses amis des félicitations si enthousiastes au sujet de ce mariage magnifique. Elle eut tant de dépit et de jalousie dans les yeux des mères rivales qu'elle eut tout lieu de se fortifier dans sa détermination. Monsieur de Morescan fut donc formellement agréé. Il se fait des mariages plus ridicules. Par exemple, ceux qui se concluent au jugé, après une entrevue unique dans quelque loge de théâtre, entre deux inconnus qui, plus tard, se connaîtront beaucoup trop. Du moins, madame de la Tourménil et sa fille avaient quelquefois rencontré dans le monde monsieur de Morescan. Il n'était pas de leur intimité, mais elle l'avait vu, çà et là, au spectacle, au bois. Elle savait son nom et connaissait ses chevaux. C'était quelque chose. Monsieur de Morescan n'était pas au reste sans présenter quelques apparences spécieuses. C'était un homme d'une trentaine d'années qui menait avec un certain éclat la haute vie parisienne. Il tenait son titre de son grand-père, général sous le Premier Empire, et sa fortune de son père, qu'il avait conquise honorablement dans l'industrie. Lui-même occupait, grâce à son nom décoratif, quelques agréables sinécures dans de hautes sociétés financières. Fils unique et millionnaire, il avait été fort gâté par sa mère, par ses domestiques, ses amis et ses maîtresses. Sa confiance en lui-même, son aplomb convaincu, sa grande fortune imposaient au monde, et il ne manquait pas de gens qu'il admirait. On l'écoutait dans son cercle avec un certain respect. Blasé, sceptique, railleur froid et hautain de tout ce qui n'était pas pratique, profondément ignorant d'ailleurs, il parlait d'une voix grasse et forte, avec autorité et prépondérance. Il s'était formé sur les choses de ce monde, et particulièrement sur les femmes, qu'il méprisait. Quelques idées assez médiocres qu'il érigeait en principe et en système, simplement parce qu'elles avaient l'honneur de lui appartenir. « J'ai pour principe... » « Il entre dans mes principes. » « J'ai pour système... » « Voilà mon système. » Ces formules revenaient à toute minute sur ses lèvres. S'il fût né pauvre, il n'eût été qu'un homme ordinaire. Riche, c'était un sot. Le choix que ce personnage avait fait de mademoiselle de la Tourménil peut surprendre au premier abord. C'était de sa part avant tout un trait de haute vanité, et c'était aussi un calcul. On vantait dans le monde parisien mademoiselle de la Tourménil comme une jeune personne accomplie. Habituée à ne se rien refuser et à primer en tout, il lui parut glorieux de se l'approprier et de mettre à son chapeau cette fleur rare. De plus, il avait pour principe que le vrai moyen de n'être pas malheureux en ménage, c'était d'épouser une jeune fille d'une parfaite éducation. Le principe n'était pas mauvais en soi. Mais ce qu'ignorait monsieur de Morescan, c'est que, pour arracher une de ces plantes choisies de la serre chaude maternelle et la transporter avec succès sur le terrain du mariage, il faut être un horticulteur de premier ordre. Physiquement, monsieur de Morescan était un grand et beau garçon, un peu haut en couleur et d'une élégance un peu lourde. Fort comme un taureau, il paraissait désirer d'accroître indéfiniment ses forces. Il jonglait le matin avec des haltères, faisait des armes, se plongeait deux fois par jour dans l'eau glacée et développait avec orgueil dans des vestons collants un torse suisse. Tel était l'homme à qui madame de la Tourménil jugea heureux et sage de confier la destinée de l'ange qui était sa fille. Elle avait, il est vrai, une excuse qui est celle de bien des mères en pareil cas. Elle était un peu amoureuse de son futur gendre, à qui elle savait un gré infini d'avoir distingué sa fille. Elle le trouvait supérieurement intelligent et spirituel, pour avoir su apprécier l'esprit de sa fille. Elle le trouvait honnête homme et délicat pour avoir préféré dans la personne de sa fille la beauté et le mérite a des avantages plus positifs. Quant à Jeanne, elle-même, elle était naturellement disposée, ainsi que nous l'avons dit, à adopter en toute confiance le choix de sa mère. Elle était, en outre, comme toutes les jeunes filles, toute prête à enrichir de son fonds personnel le premier homme qu'on lui permettait d'aimer, à le parer de sa propre poésie, à refléter sur lui sa beauté morale et à le transfigurer enfin de son pur rayonnement. Il faut convenir aussi que M. de Morescan, une fois admis à faire sa cour, eut une tenue, des procédés et un langage qui répondaient passablement à l'idée qu'une jeune fille peut se faire d'un homme amoureux et d'un homme aimable. Tous les fiancés qui ont du monde et une bourse bien garnie se ressemblent volontiers. Les bonbons, les bouquets, les bijoux leur composent une sorte de poésie suffisante. De plus, les moins romanesques sentent d'instinct qu'il faut faire en ces occasions une certaine dépense d'idéal. Et il n'est pas rare d'entendre des hommes s'exalter poétiquement devant leur futur, pour la première et pour la dernière fois de leur vie, comme on parle une langue particulière aux enfants et aux petits chiens dont on veut gagner la faveur. Cette phase d'illusion et d'enchantement se prolongea pour Mademoiselle de la Tourménil à travers les magnificences de la corbeille jusqu'aux douces splendeurs du mariage religieux. En ce jour suprême, agenouillée devant le maître-autel de Sainte-Clotilde, sous la lueur stellaire des cierges, au milieu des buissons de fleurs qui l'enveloppaient, la main dans la main de son époux, le cœur débordant de piété reconnaissante et d'amour heureux, Jeanne Bérengère toucha le ciel. Il n'est pas téméraire d'affirmer qu'au-delà de ces heures charmantes, le mariage n'est plus, pour les trois quarts des femmes, qu'une déception. Mais le mot déception est bien faible quand il s'agit d'exprimer ce que peuvent ressentir une âme et un esprit d'une culture exquise dans l'intimité conjugale d'un homme vulgaire. Sur la façon de plaire aux femmes et de les attacher à leur mari, M. de Morescan avait des principes qu'il serait difficile de formuler convenablement. On en aura dit assez et trop en laissant entendre que, pour lui, l'amour n'étant autre chose que le désir, la vertu des femmes n'était autre chose que le désir assouvi. M. de Morescan se trompait de date. Il aurait pu avoir raison dans ses théories, à cet âge lointain du monde où l'homme et la femme se distinguaient à peine de l'ours des cavernes. Mais il oubliait trop qu'une jeune Parisienne, polie par la civilisation et affinée par la plus délicate éducation, ne cesse pas assurément d'être une femme, mais qu'elle cesse absolument d'être un animal. Si elle retourne à l'état sauvage, ce qui n'est pas sans exemple, c'est son mari qui l'y ramène. Chapitre 2. Dès les premiers jours, il y eut dans ce jeune ménage un léger sentiment de froideur de part et d'autre. C'était chez elle l'amertume de trouver l'amour et la passion si différents de ce qu'elle en avait attendu. Chez lui, c'était le froissement d'un bel homme qui ne se sent pas apprécié. Cependant, Madame de Morescan, malgré le chaos qui s'agitait dans son cerveau, montrait à sa mère et au public ce front serein et impassible qui surprend toujours chez les jeunes mariés et qui témoigne de la puissance de dissimulation de la femme. L'organisation de sa vie nouvelle dans son superbe hôtel de l'avenue de l'Alma, l'étourdissement des fêtes qui saluèrent son mariage, l'éblouissement de son train de maison, de ses équipages et de ses toilettes, tout cela l'aida sans doute. Car elle était femme. à traverser, sans trop de réflexion et de découragement, les premiers temps de son mariage. Mais les jouissances du luxe et de la vie matérielle, outre qu'elles n'étaient pas absolument nouvelles pour la fille de Madame de la Tour-Ménil, sont de celles sur lesquelles on se blase vite. Elle avait d'ailleurs vécu avec sa mère dans une région trop élevée pour se contenter des banalités de l'existence mondaine, et au milieu de son tourbillon, elle était ressaisie à tout instant par la nostalgie des hauteurs. Le rêve le plus cher de sa jeunesse avait été de continuer avec son mari, dans la plus tendre et la plus ardente union de leurs deux âmes, l'espèce de vie idéale à laquelle sa mère l'avait initiée en partageant avec elle ses lectures favorites, ses pensées et ses réflexions sur toutes choses, ses croyances et enfin ses enthousiasmes devant les grands spectacles de la nature ou les belles œuvres du génie. On juge combien M. de Montrescan devait se prêter à une telle communion. Cette vie idéale, si salutaire à tous, si nécessaire aux femmes, il la refusa à la sienne, non seulement par grossièreté et par ignorance, mais aussi par système. À cet égard encore, il avait un principe. C'était que l'esprit romanesque est la véritable et même l'unique cause de la perdition des femmes. En conséquence, il estimait que tout ce qui peut leur réchauffer l'imagination, la poésie, la musique, l'art sous toutes ses formes, et même la religion, ne doit leur être permis qu'à très petite dose. Plus d'une fois, sa jeune femme essaya de l'intéresser à ce qui l'intéressait elle-même. Elle avait une jolie voix, et elle lui chantait les airs qu'elle aimait. Mais, dès que son chant se passionnait un peu, « Non, non !» s'écriait son mari en bouffonnant. « Pas tant d'âme, ma chère, ou je m'évanouis !» Elle avait le goût des poètes et des romanciers anglais. Elle lui vanta beaucoup Tennyson, qu'elle adorait, et commença de lui en traduire un passage. Aussitôt, M. de Montrescan, avec la même humeur bouffonne, se mit à pousser des cris de damné et à frapper des deux poings sur le piano pour ne pas entendre. C'est ainsi qu'il prétendait la dégoûter de la poésie, sans se douter qu'il risquait de la dégoûter bien plus tôt de la prose. Au théâtre, aux expositions, en voyage, c'étaient les mêmes railleries et les mêmes facéties glaciales à propos de tout ce qui éveillait chez sa femme une émotion un peu vive. Madame de Montrescan prit donc peu à peu l'habitude de renfermer en elle-même tous les sentiments qui font le prix de la vie pour les êtres délicats et généreux. Ne voyant plus de flamme au dehors, M. de Montrescan se persuada que l'incendie était éteint et s'en glorifia. « Toutes ces diablesses de femmes, disait-il à ses amis du cercle, sont toujours dans les nuages et ça finit mal. J'ai pris la mienne toute petite et j'ai soufflé sur toutes ces bêtises romantiques. Maintenant, la voilà tranquille. Et moi aussi. Eh, mon Dieu! Il faut qu'une femme se remue, qu'elle trotte, qu'elle court les magasins, qu'elle aille luncher chez ses amis, qu'elle monte à cheval, qu'elle chasse. Voilà la vraie vie d'une femme. Ça ne lui laisse pas le temps de penser. C'est parfait. Tandis que si elle reste dans un coin à rêvasser avec Chopin ou avec Tennyson, va te promener, tout est flambé. Voilà mon système. » Il était impossible que la pauvreté de ce système, et généralement la pénurie intellectuelle de son mari, échappât à un esprit aussi vif que celui de Madame de Montrescan. Elle ne fut donc pas longtemps dupe de son ton important et de ses façons autoritaires. Les hommes ne connaissent pas toujours bien leurs femmes, mais les femmes connaissent toujours parfaitement leurs maris. Un an ne s'était pas écoulé que les derniers voiles et les derniers prestiges étaient tombés. Madame de Morescan était forcée de reconnaître qu'elle était liée pour la vie à un homme dont les sentiments étaient bas et l'esprit nul. Elle avait l'horreur de s'apercevoir qu'elle méprisait son mari. C'est un grand mérite pour une femme qui fait de pareilles découvertes que de n'en pas moins rester une épouse aimable et soumise. Madame de Morescan eut ce mérite. Mais, pour l'avoir, elle eut besoin de se rappeler souvent qu'elle était chrétienne, c'est-à-dire d'une religion qui aime l'épreuve et le sacrifice. Elle n'en fut pas moins très enchantée d'un événement assez prévu qui lui arriva environ 2 ans après son mariage, et qui, en lui promettant une chère consolation, lui assurait pour quelque temps dans son intérieur conjugal une indépendance et une solitude relatives. Bientôt la naissance d'un fils vint lui donner la seule joie pure et complète qu'elle eût goûtée depuis le jour de ses noces. Ce bonheur-là est habituellement le seul, en effet, qui réalise dans le mariage tout ce qu'on s'en était promis. Madame de Morescan, comme on le devine, voulut nourrir son fils. Elle remplit ce devoir avec d'autant plus de plaisir qu'il lui permettait de gagner encore du temps et de prolonger à l'égard de son mari une situation dont elle s'accommodait à merveille. Mais enfin, le moment vint où l'enfant dut être sevré. Ce fut vers ce temps-là que M. de Morescan eut un soir la surprise de voir sa femme descendre pour le dîner avec une coiffure à la Titus. Elle avait fait raser ses magnifiques cheveux sous le prétexte qu'il tombait, ce qui n'était pas vrai. Mais elle espérait que ce pénible sacrifice, en l'enlaidissant un peu, lui en épargnerait de plus pénibles encore. Elle avait compté sans son hôte. Monsieur de Morescan, fort au contraire, trouva que cette coiffure de petit soldat lui prêtait quelque chose d'original et de piquant. La pauvre femme en fut donc pour ses frais et n'eut plus qu'à laisser repousser ses cheveux. Cependant, la délivrance à laquelle elle aspirait dans le secret de son cœur devait lui venir pour ainsi dire d'elle-même et du côté où elle l'attendait le moins. Une charmante et noble créature, comme elle était, très capable d'inspirer comme de ressentir la plus profonde, la plus ardente et la plus durable passion. Elle eût été digne de prendre place parmi les amants immortels dont l'histoire et la légende ont consacré les attachements impérissables. Mais l'amour de M. de Morescan ne contenait aucun élément impérissable. C'était, pour employer une expression de ce temps, un amour naturaliste, et les amours naturalistes, quoiqu'ils ne ressemblent guère à la rose, en ont cependant l'éphémère durée. Et il se disait depuis longtemps, et il laissait entendre à ses amis, qu'il avait épousé une statue assez agréable à voir, mais dont les glaces auraient découragé Pygmalion lui-même. Il le disait même en termes moins honnêtes, empruntant plus volontiers ses comparaisons à l'histoire naturelle qu'à la mythologie. Au fond, M. de Morescan, qui était d'un naturel très jaloux, n'était pas autrement fâché d'une circonstance qui lui semblait être une forte garantie de sécurité domestique. Bref, dépité de se voir méconnu, ennuyé des scrupules et des objections diverses qu'on lui opposait sans cesse, occupé d'ailleurs autre part plus agréablement, il se retira définitivement sous sa tente, d'où sa femme n'essaya pas de le faire sortir. Chapitre 3. De ce qu'une femme renonce à l'amour particulier de son mari, on aurait tort de conclure, comme le faisait M. de Morescan, qu'elle renonce à l'amour en général. Après les premiers désenchantements d'une union mal assortie, une femme se remet du choc et se recueille. Elle reprend son rêve interrompu. Elle reforme son idéal à un moment ébranlé. Elle se dit, non sans raison, qu'il est impossible que le monde fasse autour de l'amour tant de bruit pour rien, qu'il est impossible que cette grande passion qui remplit la fable et l'histoire, chantée par tous les poètes, glorifiée par tous les arts, éternel entretien des hommes et des dieux, ne soit en réalité qu'une vaine et même une déplaisante chimère. Elle ne peut imaginer que de tels hommages soient rendus à une divinité vulgaire, que de si magnifiques autels soient dressés de siècle en siècle à une plate idole. L'amour demeure donc, malgré tout, et à travers tout, la principale curiosité de sa pensée et la perpétuelle obsession de son cœur. Elle sait qu'il est, que d'autres l'ont connu, et elle se résigne difficilement à vivre et à mourir elle-même sans le connaître. C'est assurément un danger pour une femme que de garder et de nourrir, après les déceptions communes du mariage, cet idéal d'un amour inconnu. Mais il y a pour elle un danger plus grand encore, c'est de le perdre. Madame de Montrescan se lia, à cette époque, d'une étroite amitié avec Madame d'Hermany, qui était plus âgée qu'elle de 2 ou 3 ans. L'amitié est la tentation naturelle d'une honnête femme qui veut le rester et dont le cœur est vide. Si satisfaite qu'elle fût de son indépendance reconquise, Jeanne de Montrescan n'avait que 24 ans, et son honnêteté même n'envisageait pas sans effroi la longue perspective de solitude et de détresse morale qui s'étendait devant elle. Ni sa mère, à qui elle épargnait ses chagrins pour ne pas sembler lui en faire des reproches, ni son fils, trop jeune pour l'occuper beaucoup, ni même sa foi, déjà troublée par l'indifférence ironique du monde, ne pouvait suffire à son immense besoin de confidence, d'expansion et de soutien. Elle se jeta donc avec toute l'ardeur tendre et un peu exaltée de son âme dans un sentiment qui lui parut devoir être à la fois pour elle une consolation et une sauvegarde. Madame d'Hermany, qu'elle honora de son amitié, était alors, comme à présent, une personne d'une extrême séduction. Elle appartenait à la variété rare et exquise des blondes tragiques. Sans être grande, elle imposait par la perfection même de sa beauté, par l'éclat étrange de ses yeux d'un bleu sombre, par le rayonnement intelligent de son front plein et pur. Il y avait au coin de sa bouche fine un pli mystérieux qui semblait creusé par un amer dédain. Elle avait été, disait-on, très malheureuse, et une certaine conformité de destinée la rapprochait de Madame de Montrescan. On l'avait mariée comme elle, avec une légèreté coupable. Comme elle aussi, elle en était venue, quoique par un chemin différent, à ce divorce amiable si fréquent dans les ménages mondains. Elle avait épousé son cousin d'Hermany, jeune homme d'un physique agréable, mais qui avait les goûts et les mœurs d'un drôle. La légende disait qu'il avait non seulement continué sa vie de garçon après son mariage, mais qu'il l'avait fait partager à sa femme, soit par une sorte de malignité perverse, qui est assez à la mode, soit simplement par sottise. Il l'avait fourvoyée à sa suite dans les fêtes du monde interlope, dans les parties de jeunes gens, les déjeuners de course, les soupers de restaurant. On comptait que dans un de ces soupers, auxquels assistait un prince étranger, la jeune femme, outrée de la liberté de langage qu'on se permettait devant elle, et se révoltant enfin, avait souffleté un des convives. Les uns prétendaient que c'était son mari, les autres que c'était le prince étranger. Quoi qu'il en soit, à dater de ce fameux soufflet, qu'il l'eût reçu ou non, Monsieur d'Hermany avait été invité à se considérer comme veuf. Il n'en fut pas fâché, car sa femme, dont il ne pouvait méconnaître l'écrasante supériorité, lui faisait une telle peur qu'il se grisait toujours un peu le soir pour se donner du cœur avant de se présenter chez elle. Cette légende, qui était à peu de choses près de l'histoire, Madame de Montrescan la connaissait, et elle y ajoutait de son fond tout ce qui pouvait rendre plus intéressant le rôle qu'y avait joué Madame d'Hermani. Elle se la représentait plongée toute vive et toute pure dans un monde infâme. Elle l'envoyait sortir indignée et sans tache, et elle aimait à poser sur son front charmant le nimbe des jeunes martyrs chrétiennes. Flattée et touchée de ce culte aimable, Madame d'Hermani lui rendait son affection, avec moins d'enthousiasme, mais avec sincérité. Très spirituelle, instruite, un peu artiste, elle était très capable d'apprécier les mérites de Madame de Montrescan et de lui donner la réplique. Elle connut bientôt tous les secrets de Jeanne, et Jeanne crut connaître tous les siens. Leurs deux existences se mêlèrent intimement. Elles firent leurs visites ensemble et coururent ensemble les magasins. Elles eurent la même loge à l'opéra et aux Français. Elles allèrent ensemble au cours de la Sorbonne, et quand l'été fut venu, elles s'établirent toutes deux à Deauville dans la même villa. Ce fut là qu'arriva un incident qui devait laisser dans le souvenir de Madame de Montrescan une trace profonde. Quoique se tenant fort bien, les deux gracieuses amies menaient la vie du monde et étaient naturellement très entourées. Un si joli attelage, comme disait Monsieur d'Hermani, ne pouvait manquer d'admirateurs. Leurs danseurs de Paris peuplaient la côte de Trouville à Cabourg. Par surcroît, Monsieur de Montrescan et Monsieur d'Hermani, avec l'obligeance ordinaire des maris, avaient soin d'en amener quelques-uns avec eux tous les samedis soirs, comme en cas. Les hommages de tous ces dilettantes étaient accueillis sans pruderie comme sans familiarité, avec l'aisance tranquille et rieuse qui caractérise les femmes du monde qui sont honnêtes, et pareillement celles qui ne le sont pas. Le soir, quand Madame de Montrescan et Madame d'Hermani se retrouvaient tête à tête, elle se plaisait, avant de rentrer chez elle, à passer une revue satirique des prétendants du jour. C'était ce qu'elles appelaient le massacre des innocents. Et quelquefois, la curée au flambeau. Madame d'Hermani apportait dans ses exécutions nocturnes une véritable férocité. Parmi ceux qu'elle traitait le plus mal, figurait en tête un jeune homme du nom de Saville, qu'on appelait le beau Saville, et qui était, disait-elle, le conducteur de cotillons le plus stupide qu'elle eût jamais rencontré. Madame de Montrescan, moins amère, le trouvait beau garçon et bon enfant, sur quoi Madame d'Hermani lui reprochait en riant d'avoir pour les petits jeunes gens un goût de pensionnaire et de blanchisseuse. Quant à elle, si elle n'eût été, pour de bonnes raisons, dégoûtée à jamais de l'amour et des amoureux, elle n'eût pu aimer qu'un homme fait et même mûr. Et elle faisait alors de cet homme mûr qu'elle eût aimé un portrait sévère et magistral qui, malheureusement, ne ressemblait à personne. Un soir de la fin d'août, Jeanne de Montrescan s'était retirée dans sa chambre pour écrire à sa mère avant de se mettre au lit. Il était plus d'une heure après minuit quand elle termina sa correspondance. La nuit était orageuse, et en s'approchant d'une fenêtre, elle vit de magnifiques éclairs entr'ouvrir l'horizon et sillonner silencieusement la mer. Par intervalles, des grondements lointains, pareils à la voix du lion dans quelque désert africain, se mêlaient à la fête. Elle savait que Madame d'Hermani adorait comme elle ces grandes scènes dramatiques de la nature. Et la croyant encore debout, elle lui avait dit qu'elle écrirait aussi ce soir-là. Elle descendit à l'étage inférieur et frappa doucement à la porte de son amie. Ne recevant pas de réponse, elle la jugea endormie. Elle eut alors l'idée de descendre seule au rez-de-chaussée pour mieux voir à travers les larges fenêtres de la véranda les jeux de la foudre sur l'océan. Quand elle ouvrit la porte du salon, son bougeoir à la main, elle entrevit, dans la demi-obscurité, deux formes humaines qui se dressèrent brusquement devant elle. Elle poussa un léger cri d'effroi qu'elle étouffa aussitôt en reconnaissant Madame d'Hermany, qui s'élança sur elle et lui saisit le poignet en disant vivement « Taisez-vous !» Puis, se retournant vers un homme qui se tenait au milieu du salon dans une attitude assez embarrassée, « Allons, va-t'en » lui dit-elle. L'homme salua et sortit par le jardin. C'était le beau Saville. Madame de Morescan, dans l'extrême étonnement de cette double découverte, laissa échapper son bougeoir qui s'éteignit. Puis, après quelques secondes d'immobilité et de stupeur, elle s'affaissa sur un divan qui était près d'elle, couvrit son visage de ses mains et se mit à sangloter. Madame d'Hermany, cependant, les cheveux dénoués, dans le désordre d'une bacchante, allait et venait dans les ténèbres à travers le salon. S'arrêtant tout à coup devant Jeanne, « Ainsi, dit-elle, vous me preniez pour une sainte ?»«
Oui,
dit Jeanne simplement. Madame d'Hermany leva les épaules et fit encore quelques pas, puis reprenant brusquement.
Comment avez-vous pu croire cela? Comment avez-vous pu penser que j'avais traversé impunément le bourbier où mon misérable mari m'a traîné?
Jeanne ne répondait pas, elle suffoquait.
Vous souffrez, mon enfant?
Beaucoup.
Allons, venez respirer l'air, venez.
Elle lui prit la main, la souleva avec une sorte de violence et l'entraîna au dehors. Elle la fit asseoir sur la petite terrasse de la véranda et resta debout à deux pas d'elle, appuyée contre une des colonnettes qui soutenait la galerie. Elle regardait fixement la mer, sur laquelle continuaient de passer des lueurs intermittentes. Après un long silence, elle éleva de nouveau la voix.
« Vous êtes folle, ma pauvre Jeanne, » dit-elle. Vous êtes folle, comme je l'ai été et comme nous le sommes toutes au début de la vie. Mon mari, après tout, m'a rendu service sans le vouloir. Il m'a dégagée de mes langes, il m'a soulagée de mon excès d'idéal. La vérité est, ma chère, que nous sommes toutes ridiculement élevées. Ces éducations éthérées nous faussent l'esprit. La vérité est qu'il n'y a rien sur la terre, ni dans le ciel, j'en ai peur, qui puisse répondre à l'idée qu'on nous donne du bonheur. On nous élève comme de purs esprits, et nous ne sommes que des femmes, des filles d'Ève, rien de plus. Nous sommes bien forcés d'en rabattre, ou de mourir sans avoir vécu. Qui veut faire l'ange fait la bête, vous savez. Ah, mon Dieu! Personne n'est entré dans la vie avec une âme plus pure que moi, je vous assure, avec des illusions plus généreuses, des croyances plus hautes. Eh bien, quoi? J'ai reconnu, un peu plus vite qu'une autre, grâce à mon honnête homme de mari. J'ai reconnu que tout cela était sans objet, sans application, sans réalité, que personne ne me comprenait, que je parlais une langue étrangère à notre planète. Que j'étais seule de mon espèce, enfin. Il a bien fallu me résigner à déchoir, à accepter les seuls plaisirs réels dont ce monde s'y dispose. Après avoir rêvé des amours extraordinaires, je me suis contentée d'un amour ordinaire, parce qu'il n'y en a pas d'autre, parce qu'il faut bien remplir sa destinée, et que la destinée d'une femme est d'aimer et d'être aimée. « Voilà, ma chère, que voulez-vous? Je suis un archange tombé, et j'essaie de vous entraîner dans ma chute, n'est-ce pas? C'est votre pensée. Je la lis dans vos grands yeux à chaque éclair qui passe. Du reste, la mise en scène y est. Ce ciel et cette mer en feu, Et moi, là, les cheveux au vent et tendant mon front à la foudre. Très poétique, ne trouvez-vous pas ?
C'est égal. Je suis une fière misérable de vous dire tout cela. Il est toujours temps de l'apprendre.
Pourquoi me le dites-vous ?
Demanda Jeanne, qui, pendant cet étrange discours, avait repris un peu de calme.
Est-ce que je sais ? Dit madame d'Hermanie. Ah ! Dieu merci, voilà la pluie !
Elle descendit brusquement deux ou trois marches du perron, exposant sa tête nue à la pluie, qui commençait à tomber avec force. En même temps, elle secouait ses cheveux, recueillant de larges gouttes dans ses deux mains et s'en humectant le front.
« Je vous en prie, Louise, rentrez !»
dit doucement madame de Morescan. Elle remonta lentement, et, s'arrêtant devant Jeanne, elle dit d'un accent bref et hautain.
« Il faut nous dire adieu, je suppose. »«
Pourquoi donc ?»
dit Jeanne qui se leva.
« Je n'ai pas la prétention de réformer le monde. Je vous demanderai seulement de ne plus me parler jamais de vos amours ni des miens. Sur tout le reste, nous nous entendrons bien. Votre amitié restera pour moi une grande ressource, et j'espère que la mienne vous sera bonne. »
Madame d'Hermanie l'attira violemment sur son sein et l'embrassa.
« Merci, » dit-elle.
Elles montèrent chez elle. Deux heures plus tard, le jour naissant trouvait encore Jeanne assise sur le pied de son lit, les joues humides et les yeux fixes dans le vide.